1, 2, 1, 2, 3.
Les décadrés, les lundis à 14h30.
Good morning, Vietnam!
Are you ready to roll? Tonight we present a very warm little story called Kill with Time.
Votre émission de cinéma est audiovisuelle.
Les décadrés!
Les décadrés!
Les décadrés!
Décadrez-vous avec nous. Bonsoir, bonjour, bonne matinée à tous.
Bonjour,
j'ai fait une belle intro bonjour. Là, vite fait. Alors, comment allez-vous les gars? Nous sommes les décadrés sur PFM 99.9 avec Benjamin, Antoine et moi, c'est Ange.
Notre fidèle serviteur,
tout
Ange,
à fait.
Notre magicien de la technique.
Ange. Et ben,
moi, ça va super les gars. Là, le soleil commence à venir. Les oiseaux bourgeonnent, ça ne veut rien dire. Et voilà, je suis très content d'être avec vous et sur PFM.
T'as intérêt qu'il fasse beau quand on sera diffusé.
Je suis très content.
Ça, alors, vous pouvez pas le voir, chers auditeurs, mais c'est vrai que Benjamin a l'air très très content.
Il a
très
le heureux. Sourire jusqu'au casque. Sinon, c'est un peu bizarre. Alors, on va commencer tout de suite cette petite émission qui sera un peu spéciale. Famille. Ouais, j'avais envie de dire ça, ouais, c'est familial.
Tout public, oui.
C'est ouais, ça, c'est tout public,
c'est public, ouais.
Bon enfant aujourd'hui. Du coup, on va commencer avec notre petit Ben qui nous a porté une belle chronique sur un film que nous adorons tous et toutes.
La Grande Vadrouille, dans une chronique intitulée La Grande Vadrouille ou l'éternelle épopée du cinéma français.
Voilà, il va vadrouiller sur son papier, là, je le sens.
Ah oui, là, ça va faire mal. Il fête cette année son 50e anniversaire. C'est un film de Gérard Oury, avec pour tête d'affiche André Bourvil et Louis de Funès. C'est
La Grande Vadrouille.
Réalisé en 1966, sorti en France le 8 décembre 1966, La Grande Vadrouille est le succès que tout le monde connaît. On a cessé de digérer des émissions télévisées plus ou moins rigoureuses et plus ou moins people sur cette épopée guerrière qu'est La Grande Vadrouille. Une épopée, oui, avec toutes les caractéristiques qu'on trouve dans Le Voyage du Héros, théorisé par Joseph Campbell. Le héros se voit être appelé. Bon, chez Campbell, c'est un paysan, c'est quelqu'un du quotidien, ou un spectateur de sa vie. Il aspire à plus grand, bien sûr. Au début du film, Bourvil, Augustin Bouvet, est un petit peintre. De Funès, Stanislas Lefort, est un chef d'orchestre visant à faire ressortir la grandeur de Berlioz. Des alliés leur demandent de l'aide. Les deux personnages répondent à l'appel du héros qui est en eux. Bourvil a un élément qui motive bien plus son accord. La belle, douce et intrépide Juliette, interprétée par Marie Dubois.
Il veut prendre du thé avec.
Pas que. Juliette a un double rôle. Comme certains alliés british, ils sont les guides. Les guides, chez, comme le note Campbell, sont des figures qui, justement, guident les héros dans leurs aventures. D'accord.
C'est ça.
Puis vient des épreuves. Campbell en note plusieurs dans Le héros aux mille et un visages, que je vous conseille de lire. J'en cite certaines, le combat avec le frère, le voyage dans la mer des ténèbres, le passage du seuil, le voyage fabuleux et le ventre de la baleine, entre autres. Le passage du seuil est la difficulté pour le héros à partir. Donc, concernant nos héros, eh bien, c'est la difficulté à quitter leur vie, leur logement, leurs emplois, Paris, leur confort. Et le passage du seuil, c'est aussi le passage obligé qui est gardé par une force obscure, passage obligé pour pouvoir se lancer dans l'aventure. Donc la force obscure qui garde ce passage, bah ici c'est les nazis qui surveillent les trains, qui les traquent dans Paris. Ils réussissent et se lancent dans une aventure toute nouvelle pour eux. Le voyage dans la mer, des ténèbres et ventre de la baleine est probablement l'étape de l'hôtel de Meursault, où les héros se retrouvent en plein banquet allemand. Heureusement, ils fêtent un anniversaire, donc les Allemands fêtent un anniversaire et ne les connaissent pas. Ils sont censés dormir ensemble une nuit, vous en souvenez,
oui, c'était
une fameuse nuit. Ensemble, voilà. Mais ils se trompent tous deux de chambre à cause d'un chiffre qui tombe sur la porte. Je crois que c'est le 9.
C'est le 9. 6.
Le 6 qui devient 9.
Le 9 qui devient 6.
Voilà. Chaque fois qu'ils claquent la porte, ça se retourne.
Exactement. Ainsi se retrouvent-ils à dormir chacun avec un des Allemands qui les traque, parce que deux Allemands sont arrivés dans la nuit et eux les traquent. Et Stanislas Lefort, donc Louis de Funès, dort avec le chef qui le cherche depuis sa suite. Et forcément, il n'arrête pas de ronfler.
Ouais.
Et on se souvient de Funès qui claque le lit. Et puis l'autre, enfin, il rugit comme un lion dans son sommeil. Ils s'en sortent et au petit matin, la maîtresse des lieux les libère du ventre de son hôtel pour les envoyer passer la ligne de démarcation et passer en zone libre.
Yeah.
Mais ça n'est qu'une épreuve de plus. une épreuve de labyrinthe et les deux hommes perdent leur chien et sont usés. Et nous arrivons à l'autre épreuve qui est le combat avec le frère. Donc nous les retrouvons lors de la randonnée, paumés au niveau de la ligne de démarcation, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, près de Meursault. Les deux héros se disputent, ils sont usés par leur voyage. Augustin, donc Bourville, voudra retrouver ses peintures, vous en souvenez, je retrouvais mes peintures. Et de Funès Stanislas le taquinera en lui disant qu'il allait retrouver la petite fille du Guignol. La petite fille du Guignol, bon, c'est Juliette, parce qu'elle anime aussi des spectacles de Guignol.
Oui, oui.
Finalement, les héros réussiront leur mission. Les Anglais repartent en Angleterre. Les héros partent aussi avec eux, d'ailleurs. Ils ne reviennent pas, du moins pas pour l'instant. Ils reviendront dans leur patrie plus tard, en vainqueurs et héros, et non en dictateurs et salauds, parce que ça, c'est une voie possible du retour chez Campbell, donc qui a été remarqué dans ses travaux sur les mythes et récits. On pourrait aller bien plus loin dans cette analyse de la Grande Vadrouille sous la perspective des réflexions sur les héros et les récits de Joseph Campbell. Travaux que je vous invite absolument à lire, car ils constituent une conséquente partie, on les retrouve dans quasiment la majorité des œuvres de fiction, mm-hmm. On est d'accord, des récits mythologiques et religieux, et puis même dans nos vies, hein, ça nous travaille. Et tout ça pour vous dire à quel point cette grande comédie française, l'un des plus grands films populaires français, si ce n'est le plus grand, est aussi l'une de nos plus grandes épopées au cinéma. Donc l'épopée de deux Français qui vont se révéler être des héros de la résistance dans une France rongée par la guerre, le fascisme et la collaboration.
Alors, excusez-moi.
À noter donc que le film ressort en salle ce mois de juillet, précisément le 13 juillet, en version restaurée 4K.
Arrêtez. Pourquoi voulez-vous les faire arrêter? Pour vous descendre, pardi.
On est très bien comme ça.
Mais dites donc, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimballer sur mon dos?
Allons, ne perdons pas de temps à bavarder. Allez, en avant, allons.
Ça fait 3 fois que vous me faites ça. Mes souliers, mon vélo... Oui, qu'est-ce que c'est?
Allez, un peu sur votre gauche, là-bas.
Hein, vous croyez que c'est par là?
Oui.
Ah, très bien.
Cette scène.
C'était donc un extrait de La Grande Vadrouille, donc quand ils sont près de la ligne de démarcation, paumés.
C'est exactement ça.
Donc maintenant, ça va être à Ange qui va nous parler d'un monstre japonais, et ça n'est pas Godzilla.
Ah, regardez là-haut dans le ciel, c'est un oiseau, c'est un avion, c'est... Gamera. Mais qu'est-ce que Gamera? Alors en effet, vous l'aurez certainement compris, je ne vais pas vous parler aujourd'hui que d'un film, mais plutôt d'une saga à succès que pratiquement personne ne connaît en Europe. Donc Gamera. Gamera, c'est un kaiju créé en 1965. Pour faire très simple, Godzilla est le premier kaiju créé en 1954, lui, par Tomoyuki Tanaka. Donc en gros, un kaiju, c'est un monstre géant. Voilà, grossièrement la chose, Godzilla est un kaiju. C'est le nom japonais donnée à Godzilla ou à Gamera. Donc Gamera en particulier est une tortue géante cracheuse de feu, et rappelez-vous ma magnifique intro pas piquer des vers venant de Superman, et oui, vous l'avez compris, Gamera peut voler.
Et puis donc, elle peut aussi aspirer des flammes. Hein.
Oui, bah oui, elle sait cracher des flammes, donc elle sait aussi les aspirer.
C'est une femelle.
Non, c'est non pas, mais pour c'est... moi c'est une tortue, ouais, du coup c'est tortue, il y a E à la fin, Gamera, c'est une fille.
On peut pas vraiment savoir, en fait, ils ont pas vraiment fait de test, vu la taille du machin, ils auraient su assez rapidement si c'est un mâle ou une femelle, mais ils le disent jamais, en
pourtant,
fait.
Pourtant, vu la taille, hein, je pense que cette taille-là, on est censé le voir, hein, l'appendice.
Bah, quoique,
hein,
c'est une tortue, donc je sais pas par où... Ouais, non, je connais pas le...
Il faut savoir briser la coquille.
Oui, voilà, faudra demander à un vétérinaire, je pense, savoir, ou un zoologiste, savoir où se trouve le sexe de la tortue.
Zoologiste.
Oui, tout à fait. Donc, tout comme Godzilla, Gamera possède une grande quantité de films, rien que pour lui. 8 pour sa première version datant de 1965 à 1980, et qui forme l'ère de la Showa. Donc alors oui, le nom laisse à désirer, mais c'est pourtant vrai, et Godzilla aussi fait partie de cette ère, puisque c'est l'ère où l'empereur Showa régnait sur le Japon, ce qui n'a strictement rien à voir avec le cinéma, pour ceux qui le pensaient. Donc voilà, ces 8 premiers films étaient destinés en particulier aux enfants, et je vous expliquerai par la suite pourquoi. Donc ensuite, une trilogie remake de la bestiole a été réalisée entre 95 et 2000, et enfin en 2006 a encore été fait un remake du personnage. Donc au tout début du début, Gamera fut un monstre préhistorique en hibernation dans la glace du pôle Nord, réveillé par la chute d'une bombe atomique. Donc un peu comme Godzilla dans les différents films qui ont été faits. Donc celui-ci décide alors, puisqu'il n'a pas mangé depuis très longtemps, de se nourrir des sources d'énergie du monde, et cela en écrasant pratiquement tout le monde, sauf les enfants. Donc dans la nouvelle trilogie, il s'agit ni plus ni moins que d'une créature géante créée par les Atlantes, donc vous connaissez tous la fameuse légende, oui, de l'Atlantide, oui, disparue. Donc apparemment ça serait eux qui ont créé cette bestiole pour protéger le monde d'envahisseurs extraterrestres, donc ça c'est dans la nouvelle trilogie. Donc rien que ça. Mais toujours est-il que pendant plusieurs siècles, il n'a pas montré le bout de son nez, vu que la trilogie commence dans les années 90, et que personne ne l'avait jamais vu. Et il se crée un lien très étroit avec une jeune fille. Donc toujours cet aspect enfant. Hein. Vous allez voir, en fait, Gamera peut passer pour un pervers là-dedans, pédophile. Hein. Je vous le dis tout de suite. Parce qu'il, vraiment, les seules personnes qu'il ne tue pas ou qu'il fait attention de ne pas écraser, ce sont les enfants.
J'ai failli faire une blague affreuse. Mais non, elle était affreuse.
Et non. Enfin... Dans le dernier film, et enfin dans le dernier film, Gamera l'héroïque, celui-ci est un bébé Gamera découvert par un jeune garçon qui va s'occuper de lui jusqu'à ce qu'il devienne trop grand pour rester dans sa chambre. Donc vous l'aurez compris, comme je n'ai pas arrêté de le répéter, Gamera adore les enfants, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais les Japonais qui l'ont créé ont dû se dire « Ok, il y a Godzilla pour les adultes, donc on va créer notre Denver national, Gamera, et tout le monde sera content ». Et j'ai envie de dire ok, parce que même moi, à mon âge si avancé, dirais-je, j'aime beaucoup la grosse bébête. Oh, donc ok, les premiers films ont beaucoup vieilli, il faut vraiment s'accrocher pour les regarder, mais c'est quand même amusant de revoir des films où le monstre est une main dans une chaussette, ou de voir un gars dans un costume de mascotte s'acharner sur des maquettes. Et c'est cela pour la majorité des films, sauf pour celui de 2006. Donc c'est vachement intéressant qu'ils aient gardé ça, en fait, cette idée de grosse mascotte, de gros costume, jusqu'en 95 et 2000, parce que la plupart des costumes, c'est comme ça. On voit clairement qu'il y a les maquettes, et ça, c'est vachement beau à voir, en fait. Rien qu'esthétiquement, c'est quand même beau. Bah, toi, tu l'as vu vite fait, ouais, dans, ouais, le film en noir et blanc qu'on, ouais, avait
je
regardé.
Je me souviens aussi que Gamera, je le trouvais un peu plat.
Oui, il est très plat. Enfin, très pour les plat. Premières
c'est-à-dire
versions.
C'est une tortue.
Bah, c'est pas ça, c'est que le costume à l'avant n'a pas de relief. À l'arrière, il y a la carapace, ouais, du, ouais, coup. Hein. Mais à l'avant, il n'y a pas de relief, du coup... C'est vraiment visible que c'est un mec.
Bah même la façon dont il se déplace, ouais, ça c'est vachement humain, tu vois. Dans les premiers films, il cherchait pas vraiment à transformer en fait le Gamera en monstre vraiment jusqu'au déplacement. Ils avaient fait le costume et puis voilà quoi, ils s'étaient marrés, ils faisaient avec ce qu'ils avaient. Mais bon, après ça n'empêche pas que c'était vachement impressionnant de le voir. Comme ça. Après j'ai pas vu les premiers Godzilla, je peux pas te dire si c'est.
C'est un gars en costume, même, mais. Enfin, c'était vachement agréable parce que c'était vraiment une figure monstrueuse. Le gars faisait quand même un effort, il marchait lentement, quand il bougeait les bras, c'était particulier.
Bah après, Gamera, c'est un kaiju à rencontrer, je vous le dis, hein, franchement, parce qu'il est vachement intéressant à voir. Bon, certes, il est beaucoup plus mignon que Godzilla, ouais, mais c'est ce qui le rend si redoutable, en fait. Même si ses capacités sont un peu what the fuck, eh bien, Slack fonctionne parfaitement avec les autres bestioles qu'il doit combattre pour protéger la Terre. Donc, je vous rappelle, il crache du feu. C'est une tortue qui
comme
crache
Godzilla,
du feu.
Ouais.
Godzilla aussi, je me rappelle.
Cracher de l'énergie, bizarre.
Ouais, c'est, bah lui, c'est vraiment un lance-flamme, quoi. Après, dans les.
D'ailleurs,
dans
on peut 95, voir le lance-flamme dans la bouche de la bestiole.
Ah merde.
Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage.
Monsieur, bon, après.
Ouais, mais au final, je trouve ça dommage parce que le film, dans son ensemble, essaye de cacher ces petits trucs. Même les maquettes, hein, au final, enfin. Il y a un certain soin, je trouve, dans la mise en scène.
C'est peut-être en fait sa langue, hein, le tuyau de gaz.
Non, même pas.
Non,
j'essaie de justifier, mais.
Mais en fait, le problème, c'est que, ouais, enfin, on le voit vraiment, enfin, ouais. On voit la petite grille avec les flammes qui passent.
Ah, ça, c'est,
ouais, c'est une petite grille dans le fond de la gorge du costume. Ouais. Ah. Et c'est assez dommage, en fait.
Parce que je pense en plus que le gars qui était dans le costume, il devait absolument rien voir, parce que sa tête est tout le temps levée.
Je suis pas sûr qu'il était dans le costume.
Je suis pas sûr qu'il était. Ouais,
non, mais même à certains moments, quand il marche et tout, j'ai l'impression que sa tête, la tête du caméra, elle doit être au-dessus de la tête du porteur de costume, ce qui fait qu'il ne doit rien voir quand il devait se déplacer dedans.
Ah, ça, c'est possible. Après, c'est, aussi,
ce n'est qu'un détail.
À voir s'il a pas pris feu.
Mais voilà. Après, Gamera, je disais les pouvoirs what the fuck, en fait. Il vole, mais c'est pas la manière de Superman. En fait, il rentre ses pattes dans sa coquille et il se met à tour. Il y a des feux d'artifice qui sortent de ses ouvertures. Voilà. Il se met à tourner et ça devient un ovni en fait à réaction.
Il y a une scène très drôle là, avec ça, papy génial. Qui découvre. Il voit un truc bizarre. Déjà, moi, quand je vois le film, je me dis, mais c'est quoi le rapport entre Gamera et les ovnis? Je me suis posé cette question-là. Et en fait, le vieux a reconnu Gamera.
Alors, on sait pas comment, hein, mais.
Il a reconnu Gamera et en fait, il a pas l'air plus surpris que
bah
ça.
Bah ouais, hein. il dit pas que c'est Gamera directement, il dit, ah.
Je ne savais pas qu'il pouvait pas voler.
Voilà, c'est ça, je pensais qu'il pouvait que marcher.
Mais c'est peut-être parce que c'est un super-héros, il est connu.
Maintenant, ils viennent seulement de le découvrir, tu vois.
Il
vient seulement d'apparaître, tu vois. Ils l'ont réveillé. Et, voilà.
Il y a eu juste quelques photos, quoi.
Ouais, voilà. Donc, c'est pour ça, c'est assez bizarre. Mais bon, le seul souci dans les films, donc dans tous les films qu'il y a là, c'est qu'ils fonctionnent trop sur le même schéma scénaristique. Donc un monstre apparaît, des gens meurent, l'armée tente de trouver une solution, Gamera arrive comme une fleur, et se fait défoncer la gueule, l'armée panique, un enfant fait un câlin à Gamera, et Gamera défonce tout.
Est-ce qu'il y a des scientifiques
ça, toujours, et c'est d'ailleurs les scientifiques qui donnent des ordres aux militaires.
Alors ça, c'est très très drôle, parce que je me faisais la remarque quand on regardait les films, et en fait, au début, ça m'a pas frappé, tu sais, mais au bout d'un moment, je regarde, et en plus, c'est un zoologiste, un professeur de zoologie, qui donne des ordres à des mecs quand même assez haut gradés, et je me dis, mais ça fonctionne bizarrement au Japon, tu vois, enfin, c'est le scientifique qui donne les ordres, mais en fait, au-delà du fait qu'il donne des conseils, parce que c'est un scientifique, et effectivement, son avis est peut-être important, c'est vraiment lui qui donne les ordres. On voit pas un autre personnage qui se ramène à notre militaire pour dire maintenant t'es gentil coco, tu me laisses faire mon travail, tu vois. C'est lui qui dit là vous tirez, là vous faites ça. Enfin, c'est
dans le cinéma science-fiction américain, il y a James Cameron qui a noté une chose. Au début années 40, 50, c'était les scientifiques qui étaient les méchants et les militaires qui étaient les héros.
Oui.
Et après il y a un rapport qui s'est complètement inversé. Est-ce qu'on retrouve ça dans Gamera ou pas du tout?
Bah ils sont en collaboration en fait.
La collaboration. Bah après c'est une image, il y a une image particulière du Japon en fait. Enfin hein, tu vois vraiment, enfin tu ressens quand même la culture japonaise dans cette idée justement. C'est même un peu too much en fait. Enfin à certains moments parce que il y a des passages avec des Américains.
Ouais.
Qui sont très très mal joués.
J'ai vu des recherches là-dessus et en fait c'est juste pour la version occidentale qu'ils ont rajouté les Américains, les plans avec les Américains. Ça a été fait pour
les Américains. Je savais pas.
Voilà. C'est ce que j'ai vu après en fait en faisant mes recherches et j'ai vu ça. Je fais c'est dommage quoi. Enfin après
on s'en fout. Le public occidental se sent concerné.
Mais c'est un peu con parce qu'au final tu vois au début du film avant que la bombe atomique tombe. Tu vois des Japonais qui vont au pôle Nord pour faire un reportage sur des tortues, ils savent pas du tout qu'ils vont tomber sur Gamera, hein. Ils font un reportage là-dessus, et donc il y a des avions de chasse qui passent, ils savent pas d'où ça vient, donc du coup ça laisse un point assez intéressant, c'est qu'en fait t'as pas d'ennemis définis, ils disent pas tout de suite c'est des Français, c'est des Américains, c'est des Russes, ils savent pas vraiment qui c'est, pas du tout, et pourtant les Japonais vont demander à des Américains s'ils peuvent envoyer des avions de chasse.
Moi je pensais que c'était les socialistes dans le film, tu vois.
On sait pas.
C'est pas clair.
C'est qu'un détail, tu vois. Ils lâchent la bombe atomique puis voilà, ça lance le film, mais c'est ça qui est assez étrange, c'est qu'il y a un bon rapport entre les États-Unis et le Japon. Mais grâce à cette vision, je pense que la version vraiment japonaise,
il y a quelque chose d'harmonieux en fait dans la mise en scène, dans le scénario, et c'est un Japon très soudé en fait. C'est un aspect d'un pays qu'au final on connaît peu et ça a l'air très soudé en tout cas.
Mais c'est parce que c'est
il y a une intelligence en fait patriotique, mine de rien dans le film.
Mais après, ça montre une bonne vision parce qu'en fait, à la base, ce sont des films créés pour les enfants.
Ouais, enfin, ça montre une bonne vision, mais c'est aussi très critique, comme oui. Godzilla, de tout ce qui est utilisation du nucléaire, ouais. Tout ça. D'ailleurs, c'est mais énormément c'est... pompé sur Godzilla.
Est-ce que Gamera, comme Godzilla, combat le nucléaire ou pas du tout?
Gamera, lui, se nourrit du nucléaire.
Parce que Godzilla, il est aussi à l'intérieur, il y a la strate, mais quand apparemment il y a trop de nucléaire, et du coup il y a des créatures, là, les autres.
Oui, les autres kaijus.
Les autres kaijus qui viennent, ou quand il y a trop de nucléaire sur la planète, il vient pour, comment on pourrait dire ça, remettre l'ordre naturel. Oui.
Non, mais là, Gamera, je sais
pas. Lui, il protège vraiment. Il est là en tant que protecteur de la Terre. Ouais. C'est genre, s'il y a des extraterrestres qui attaquent, n'importe quelle ville, tu vois, bon, il va mettre trois plombes à arriver.
Ouais, parce qu'il...
Tu sais, pendant tout le film, tu sais que c'est un film sur Gamera, tu vas pas le voir pendant la moitié du film, mais tu sais qu'il va arriver enfin, pour protéger la Terre.
Sauf sur le premier qu'on a regardé hier ensemble.
Oui, mais c'est parce que c'est vraiment sur lui, sur ses origines, quoi.
D'accord.
Donc voilà, je vous ai quand même vulgarisé la chose sur le fait que ça soit un câlin, un enfant qui vient faire un câlin. Et du coup, je me suis perdu, excusez-moi. Donc voilà, c'est, à la base, c'était présenté comme un divertissement pour enfants, tel les Power Rangers, mais bien plus violent. Donc, partez à la découverte de cette grosse tortue, je vous le dis tout de suite, c'est important pour la culture parce qu'il est vraiment méconnu face à Godzilla. C'est une icône pour les enfants japonais de l'époque, mais il se doit d'être connu. Et je pense que ce serait énorme si on voyait un jour un crossover entre Godzilla, avec Godzilla et Gamera, ça pourrait être vachement intéressant, même si, bon, il y a quand même un... une grosse différence entre les deux personnages. Donc voilà, un bon
différence
divertissement.
Différence de taille aussi.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais après, il est plus grand normalement, Gamera.
C'est vrai ?
Ouais.
Ah, d'accord.
Enfin, là, c'est parce qu'ils ont montré une version petite, mais il y a d'autres versions. En fait, il y a plein de Gamera. Enfin,
d'accord,
ouais, c'est compliqué,
je sais
c'est
pas.
Aussi une histoire. Donc voilà, un bon divertissement, de l'action, des monstres, rien de mieux pour les enfants que de se dire on est protégé par une grosse tortue volante à réaction. Bon film à tous.
Bon, et eh ben, on va enchaîner. Avec Antoine.
Oui.
Antoine, tu vas nous parler d'un panda.
Oui, alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler donc d'une franchise et j'ai nommé Kung Fu Panda, plus précisément Kung Fu Panda 3. Alors, il s'agit d'un film d'action-comédie américano-chinois réalisé par Jennifer Yu Nelson, qui a été aussi aux commandes du second opus de Kung Fu Panda, et Alessandro Carloni, dont je n'ai vu aucun film et je sais qu'il a fait de la publicité notamment et qu'il a fait du montage, mais enfin voilà. Le film est sorti donc le 30 janvier 2016 dans nos salles obscures et c'est avec un immense plaisir pour moi de vous en parler aujourd'hui. Alors pour ce troisième opus, nous retrouvons donc Po, notre maître dragon, ainsi que tous ses acolytes dans une nouvelle aventure bourrée d'humour et où les origines de Po sont mises en avant dans l'avancée de l'histoire.
Pourquoi c'est guerrier dragon.
Oui, bah, le maître dragon, guerrier malin. Pour moi c'est pareil. Hein.
Oh, il te l'a mis là.
Ok, bon, guerrier dragon. Alors donc on y retrouve aussi par la suite le père de Po, Li Shan, qui fut porté disparu pendant de longues années et qui vient à la recherche de son fils. Et parallèlement, le grand méchant du film, le général Kai, qui était emprisonné dans un monde flottant parallèle où siègent les esprits des grands maîtres kung-fu, se libère de ses chaînes grâce au pouvoir du chi.
Chi.
Le chi. Ah, tiens, attendez, mais c'est marrant. Mais ça ressemble pas déjà à quelque chose? Vous trouvez pas? Non ? On dirait le même schéma que le second film. Et on dirait le même schéma que le premier film également. Ben oui, c'est le même schéma scénaristique dans les trois films.
T'as fait un beau petit lapsus.
Un lapsus.
Un schénaze.
Un schénaze qui sera coupé au montage d'ailleurs. Et oui.
Ou pas.
Ou oui, Kung Fu Panda 3 ne brille pas par son originalité, même si selon moi, le troisième est bien meilleur en termes de qualité que le second. C'est notamment grâce à son humour adapté au large public et aussi grâce aux révélations qui sont faites sur la famille de Po et ses origines. Alors lorsque vous regardez Kung Fu Panda, vous attendez à quoi vous les gars, personnellement?
Des combats.
Un panda, de l'humour, de l'animation.
Et toi Ange?
Des combats, des cascades et un gros panda qui fait que bouffer.
Voilà, donc au final c'est à peu près la même recette pour chaque film.
C'est pas Jack Black qui est doubleur?
C'est Jack Black qui est doubleur justement du personnage de Po. D'ailleurs si je vous conseille de regarder le film, c'est plus dans la VO. La VF n'est pas mauvaise, mais le problème c'est qu'ils ont pas été arrêté de changer de comédien à chaque fois.
C'est Manu Payet qui fait la voix de Po.
C'est Manu Payet, mais il me semble que c'est pas sur les... Il est pas tout... il est
bah,
pas sur le premier, je crois.
Le premier, faudra que je revérifie, mais je sais plus.
Enfin bref, bizarrement j'ai trouvé que ce troisième opus était au final mieux travaillé que le second et parfois sur certains aspects mieux travaillé que le premier, enfin sur un aspect technique surtout. Après, on ne retrouve pas la surprise et l'euphorie du premier, ça c'est indéniable, même si celui-ci a au moins le mérite de proposer un développement de son héros. En termes de schéma scénaristique, nous avons en gros village de Pau, arrivée du méchant, la découverte d'une technique secrète qui, entre parenthèses, comme par hasard, va permettre d'arrêter le méchant, l'entraînement du héros, des révélations sur son passé, le combat des acolytes contre les méchants qui, bien utérellement, se font torcher. Et attention, quand je dis torcher, c'est au sens figuré, parce que sinon, bah, ce serait pas très classe. Et enfin, le combat fatidique entre le héros et le méchant qui, il y a 5 minutes avant, a pris la célèbre technique à qui, normalement, il faut plus de 50 années et pour pouvoir la maîtriser.
Et encore, il l'a pas vraiment appris, en fait. Il connaît rien dans l'histoire, en fait. Non, hein, quand tu regardes bien, il, d'un coup...
Oui, non, mais oui, mais c'est pas un... Il est, en fait, c'est son kung-fu, en fait. Mm. C'est uniquement ça, et c'est pas un prodige. C'est juste son kung-fu.
Mais c'est ça que je trouvais dommage dans les 3 films, c'est qu'au final, à chaque fois, il y a un truc qu'il doit apprendre, et il le sait qu'à la dernière minute.
Oui, voilà.
C'est dommage, en fait.
C'est ça,
enfin,
au final...
D'originalité.
Au final, la formule, en fait, elle est la même pour chaque film, et en fait, bah, on se retrouve souvent lassé par la démarche scénaristique, et même si Kung Fu Panda 3 bah, jouit de superbes animations, avec des personnages au cœur pour lesquels on a de l'empathie et qui on souhaiterait s'identifier, et ben bah, on retrouve pas justement la possibilité de redécouvrir à chaque fois l'œuvre et le personnage, évidemment. Alors de plus, rien que la bande originale du film, c'est nous transporter dans l'univers justement du Kung Fu. Avec quelque chose de très coloré, de l'humour et de l'action. Et d'ailleurs, qui peut me dire qui est la personne, qui est le compositeur de la musique de ce film ?
Le compositeur ?
Je ne vais pas dire.
Hans Zimmer.
Ah !
Et oui, ah oui, Hans Zimmer. Et pour conclure, Kung Fu Panda 3 reste un très bon film d'animation qui, même s'il n'y brille pas par son originalité, a le mérite de proposer un film familial où petits et grands n'auront pas de mal à se partager l'histoire de notre fidèle serviteur Panda. Humour, bagarre, révélation et séquence d'émotion, le film compile des moments forts afin de proposer un spectacle enchanteur, et grâce à son schéma scénaristique, certes répétitif, parvient également à rendre le film complètement homogène. Et pour conclure cette fin de chronique décadrée, on va se laisser sur le titre Kung Fu Fighting, chanté par Jack Black et Cello Green.
C'est la classe.
Everybody is kung fu fighting. Your mind becomes fast and lightning. Although the future is a little bit frightening,
little bit frightening.
The life that you're riding,
life that you're riding.
You're a diamond in the rough, a brilliant ball of clay. You can be a work of art if you just go all the way.
Look out!
Now what would it take to break?
See,
I believe that you can bend. I only do
vous écoutez bien les Décadrés sur PFM 99.9.
Et oui.
Et il est l'heure de nous dire au revoir.
Oh non !
Mais par chance, vous allez nous retrouver la semaine prochaine.
Oh oui !
À la même heure, sur PFM 99.9.
Oui !
C'est-à-dire vers 14h.
14h30.
Oui, et vous pouvez aussi nous retrouver sur Mixcloud.
Et oui, et la page des Décadrés sur Facebook.
Voilà. Bravo. Nous sommes partout.
Nous sommes partout à la fois.
Nous sommes les Décadrés. Nous vous aimons.
Exactement.
Pas moi, mais je vous dis au revoir quand même.
Au revoir.